Studio Damani, voici nos informations en français.
Il est exactement 18h. Merci à tous d'écouter Studio Tamani. Voici les titres de cette édition. Les représentants des pays ouest-africains sont réunis jusqu'au mercredi 5 décembre en Gambie sur la situation alimentaire et nutritionnelle du Sahel. Cette rencontre intervient au moment où l'insécurité affaiblit les productions céréalières dans les zones frontalières du Mali, Niger et Burkina Faso. La quasi-totalité du tas d'ordures situé près de l'établissement Mamadou Diarra numéro 2 de Medinankura a été ramassée. Les responsables de l'établissement satisfait annonce que des dispositions seront prises dès demain pour la reprise des cours. La 24e édition du sommet mondial du climat se poursuit à Katowice en Pologne. Une trentaine de chefs d'État ont participé ce lundi à la rencontre des hauts responsables d'État. Le développement de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté. Bonsoir à tous et bienvenue. Les représentants des pays ouest-africains sont réunis jusqu'au mercredi 5 décembre en Gambie pour évoquer la situation alimentaire et nutritionnelle de la région. Ce rassemblement annuel s'inscrit dans le cadre de la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Globalement, la saison a été satisfaisante cette année avec plus de 70 millions de tonnes de céréales. Néanmoins, dans les zones frontalières du Mali, Niger et Burkina Faso connaissent des contraintes dans leur production à cause de l'insécurité. Les détails avec Arkia Touré.
En fin de cette année, près de 4,5 millions de personnes vivent dans des conditions alimentaires critiques dans le Sahel. Et d'ici à la période de soudure, mi-2019, ce chiffre pourrait s'élever à 9 millions. Selon Soumaïla Sanou, président du réseau ouest-africain des céréaliers, cette situation s'explique surtout par l'insécurité dans certains pays. Quand on prend la zone du Burkina, le Niger, le Mali, une partie aussi du Nigeria à cause de l'insécurité, les gens n'ont pas pu faire la production agricole comme ça se devait, affirme-t-il. Ces zones sous pression ont aussi subi les aléas climatiques. Selon Issoufou Boua, un expert du comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, il est impossible désormais d'ignorer le dérèglement climatique. Tantôt, ce sont les baisses pluviométriques entraînant des sécheresses, tantôt, c'est la hausse du régime pluviométrique qui amène des inondations, dit-il. Deuxième journée des acteurs du réseau de prévention des crises alimentaires à Banjul sera consacrée à la mise à l'échelle des bonnes pratiques de nutrition. Cette session est présidée par le ministre malien de l'Agriculture, Dr Nango Dambélé. Ce sommet des représentants de pays ouest-africains qui va se poursuivre jusqu'au mercredi 5 décembre est une occasion de surveiller les risques dans la région en matière alimentaire.
Plus de 60% de la campagne agricole ont échoué cette année à Yuaru, déclare un paysan de la localité. L'accès relativement limité aux intrants agricoles dus à l'insécurité et l'inondation ont joué sur les rendements. Les producteurs agricoles craignent une insécurité alimentaire dans la zone et appellent à l'aide. Écoutons la réaction de ce producteur agricole de Yuaru, joint par Arkia Touré.
Cette année, la campagne agricole, vraiment, ça n'a pas beaucoup donné. Dit beaucoup de situations. D'abord, la première des choses, c'est vraiment les intrants agricoles, on n'a pas mis ça à temps. Ce qui a fait ça, c'est qu'il y a eu un moment où les militaires étaient basés à Djeloubi. Ils disaient que les engrais passaient sur ces bandits armés, ils utilisaient ça comme leur mine.
Si j'ai bien compris, les engrais contribuent aussi à la fabrication des engins explosifs.
Voilà, tout cela. Les militaires, vraiment, ils ne veulent pas que les engrais passent par là. Donc, c'est le fait qu'on n'a pas eu les engrais agricoles ont vraiment joué sur la campagne agricole de cette année. Il y a eu un autre problème qui est l'inondation. Il y a eu tellement de l'eau que ce n'est pas la peine. Beaucoup de céréales sont sous l'eau aujourd'hui. On n'a pas pu faire la récolte. Cette année, nous, on a peur. C'est quand il n'y a pas quelque chose à manger, là, vraiment, il y a un problème. Ce qu'on a utilisé, ça pouvait nous prendre à 100%. Vu la situation, vraiment, ça ne peut pas dépasser les 40%.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. Les cours reprendront très prochainement à l'école Mamadou Diarra numéro 2 de Medinankura, en commune 2 du district de Bamako. C'est en tout cas ce qu'affirment les responsables de l'établissement. Cette reprise fait suite à l'évacuation de la quasi-totalité des ordures déposées près de l'établissement. Abdoul Kader Traoré, directeur coordinateur du groupe scolaire Mamadou Diarra numéro 2 de Medinankura, au micro de Ousmane Niali Bouli.
Nous-mêmes, nous avons constaté qu'il y a la volonté. Depuis qu'on a commencé l'arrêt de travail, ils ont commencé les ramassages. Toutes les nuits, il y a au moins 20 véhicules qui passent et ils sont en train de faire le dernier ramassage ce matin. Nous, enseignants, nous sommes concertés et nous avons dit que, inchallah, demain matin, nous allons tenir notre assemblée générale d'information pour laquelle nous allons lever les mots d'ordre pour que les enfants puissent reprendre parce que nous sommes à l'approche des trimestres. Ce que je demande aux autorités, c'est que les dépôts ne soient plus un dépôt final. On ne peut pas dire de délocaliser, mais ce que nous pouvons dire, c'est que ça soit un dépôt de transit. Si on déverse les ordures, les mêmes jours ou bien le lendemain qu'ils ramassent, le temps qu'on a arrêté le travail, 15 jours et les autres sont en train de travailler, ça joue sur notre résultat. Mais nous, enseignants, nous allons essayer de fournir un effort pendant les congés de Noël pour récupérer ces rattrapages.
Parlons à présent des climats. COP24, une trentaine de chefs d'État ont participé hier à l'encontre de hauts responsables d'État. Une quarantaine de présidents étaient attendus. Ceux du G20 ont boycotté la session au même moment dans la ville de Katowice en Pologne, en restant plus les préparatifs de Noël que l'urgence climatique. Le point avec notre envoyé spécial à la COP24, Mohamed Touré.
À Katowice, en Pologne, deux jours après l'ouverture de la COP24, on ressent peu d'engouement et de ferveur de la part de la population. L'ambiance est plus tournée vers les fêtes de Noël que le sommet mondial du climat. Des sapins, jouets et tenues de Père Noël se vendent à chaque coin de rue et les Polonais se retrouvent dans les stands des marchés d'hiver pour boire du vin chaud. La température de la ville est aux alentours de 0 degré en ce moment. La circulation est perturbée en centre-ville à cause du dispositif sécuritaire et les barrages filtrants qui entourent le site de conférence régulièrement survolé par des hélicoptères. Les participants sont systématiquement fouillés et identifiés pour accéder à la zone qui s'affiche aux couleurs bleues et vertes. Hier, 40 chefs d'État étaient attendus pour le lancement. Cependant, une trentaine ont répondu à l'appel. Les accords de Paris ne sont pas négociables, a laissé entendre le secrétaire général de l'ONU. Il a rappelé l'urgence d'agir et la responsabilité collective. Antonio Guterres a aussi lancé un appel aux dirigeants du monde en faveur de la transformation d'une économie durable et raisonnable. Mohamedou Touré en direct de la COP24 pour Studio Tamani, Fondation Hirondelle.
Sur un tout autre sujet, le communautarisme, c'est lorsque des communautés se forment en fonction de l'appartenance ethnique ou tribale. Dans la région de Menaka, le phénomène a pris de l'ampleur ces derniers temps. Pourtant, de l'avis de certains observateurs, il risquerait de jouer négativement sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. En quoi le communautarisme est-il un danger pour la paix? Éléments de réponse dans ce reportage de Mohamed Aghissa Fetana depuis Menaka.
Dans la région de Menaka, les communautés vivent en entités dénommées fractions depuis l'indépendance du pays. Ces fractions ont chacune à leur tête un chef de fraction. Aujourd'hui, certaines de ces entités sont divisées à cause des intérêts souvent familiaux ou claniques. Certaines fractions sont créées souvent en violation des textes en la matière. Moussa Tchigoum Meiga, chef de village de Menaka.
Toutes les grandes communautés, je vais appeler les Kalahara 2, je vais appeler les Amburuten, je vais appeler les Ibrolitten qui sont du même grand-père. Aujourd'hui, sont constitués à combien de fractions? Il y a eu tellement de scissions, il y a eu tellement d'oppositions qu'aujourd'hui, on se retrouve même. Ces créations sont devenues un danger.
Selon Intelhamt Ag Erzai, ancien administrateur, le communautarisme, en plus d'être un danger pour la paix, peut engendrer d'autres maux avec des conséquences néfastes. Intelhamt Ag Erzai.
Un grand danger, parce que le communautarisme est source de division. Il est source même de racisme. Il est source de conflit. Mais les gens dos à dos, parce que chacun s'enferme et pense que il n'existe que lui seul. Alors qu'aucun individu, aucune organisation, aucune autre espèce ne peut évoluer sans l'environnement.
Lors de la conférence régionale sur la réorganisation territoriale, le communautarisme a été le principal facteur ayant abouti aux nombreuses propositions de cercles de communes. Pour Intelhamt Ag Erzai, le combat à mener est celui contre le sous-développement qui nécessite une union sacrée des communautés.
Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de se remettre en cause, de se ressaisir et de comprendre que c'est en étant unis que nous allons triompher de la bataille du développement, la guerre contre le sous-développement, et c'est la seule guerre qui mérite d'être menée.
Mohamed Ag Issa Fetan, Menaka, Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, quelques tours dans les régions. Un véhicule loué par le centre de santé d'Ansongo a été enlevé hier à Maïdagal, dans la commune de Bara, par des bandits armés à moto. Ils se sont enfuis avec le véhicule et les vaccins informés. Les forces de sécurité ont engagé une poursuite pour les retrouver. Le lycée de Kadjolo débute l'année scolaire 2018-2019 avec un manque cruel de professeurs d'histoire et de géographie. L'établissement compte seulement 2 professeurs d'histoire et de géographie pour plus de 3000 élèves. Le proviseur affirme être en pourparlers avec l'Académie de Sikasso afin de pallier le problème avant la fin du premier trimestre 2018. Les ONG d'ADESA, Ardis, Zangela Partners s'unissent pour lutter contre les VBG à Bourem. Plusieurs contrats d'abandon de mariage précoce et forcé ont été signés. Des séances de prêche sur la planification familiale et la fréquentation des centres de santé ont été organisées dans les 5 communes. Initiées par l'aide de l'Église norvégienne et financées par les Pays-Bas, la rencontre a duré 3 jours. Dans un instant, ce sera le Grand Dialogue. Bonsoir Fatoumata Togola.
Bonsoir Assetou.
Alors ce soir, vous allez parler de quel sujet dans le débat?
Alors nous allons parler du mécanisme opérationnel de coordination de Kidal, blocage ou incompréhension. Et nos invités pour répondre à cette question, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, porte-parole de la CME, Ibrahim Ag Huff, porte-parole de la CMA, Abdraman Ben Mamata Touré, avocat.
Merci et très bon débat. Restez à notre écoute. Dans un instant, le magazine.